savoir, Louise Tourret.
Bonjour et bienvenue dans Être et Savoir. Et si tout était là, et si la réussite des élèves dépendait essentiellement de la taille de leur classe, 22 plutôt que 25, voire 30 élèves en maternelle, en élémentaire, au collège. La réduction des effectifs est une revendication très ancienne des enseignants et des parents. Elle demeure depuis 1981 la principale particularité de l'éducation prioritaire, qu'on appelle aujourd'hui réseau d'éducation prioritaire, REP. Et surtout, le sujet est d'actualité. Le premier bilan des CP et CE1 à 12 élèves en REP plus a été communiqué il y a quelques jours. Il s'agit de la mesure éducative phare du quinquennat Macron, lancée par le président lui-même, qui a déjà évoqué son élargissement à tous les CP de France. Ce bilan d'étape permettait au ministre de communiquer sur son action à la veille du passage de la grande loi pour l'école de la confiance devant la commission éducation et culture de l'Assemblée. Le texte adopté cette semaine sera examiné en séance publique à partir du 11 février. Il contient des éléments sur lesquels nous reviendrons puisque liés à notre sujet, formation des professeurs et nouveaux types d'établissements scolaires réunissant écoles et collèges, les établissements publics des savoirs fondamentaux. Alors, ce bilan du CP à 12 est-il aussi positif qu'annoncé ou ne manque-t-on pas de recul, comme le formulent déjà certaines critiques? Peut-on comparer notre CP et CE1 à 12 au programme de réduction des classes à l'étranger et que nous apprennent ces expériences? C'est très intéressant. La connaissance de ces dernières, on le verra, permet de comprendre les apports mais également les limites de cette politique en France. Limites financières, hein, par exemple. Enfin, y a-t-il un idéal de taille des classes pour une bonne transmission des savoirs et à quoi correspondrait-il? Réponse avec nos invités. Mais avant de vous les présenter, cette émission La Leçon de Choses de Sophie Bobert, ce sera en fin d'émission avec la réalisatrice et comédienne Emmanuelle Berco qui a puisé l'inspiration de ses films dans ses expériences d'enfant. À tout à l'heure pour cette leçon de choses. Quatre invités dans Être et Savoir pour parler de la taille des classes. Julien Grenet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de recherche au CNRS et professeur associé à l'École d'économie de Paris. Vous avez participé à la conception du dispositif d'évaluation de la première année de mise en œuvre du CPA 12, c'est bien ça?
C'est ça.
Et puis vous connaissez bien le sujet et les études dont j'ai parlé sur la taille des classes à l'étranger. Ça permet de faire d'intéressantes comparaisons. À votre côté, toujours sur le CPA 12, Laurent Lima. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence au laboratoire de recherche sur les apprentissages en contexte, la RAC, directeur du département de sciences de l'éducation de l'université Grenoble-Alpes, UGA, c'est le nom de cette université.
UGA.
UGA. Alors vous avez participé, vous, à cette évaluation, plutôt du côté pédagogique, c'est bien ça?
Oui, plutôt du côté des questionnaires enseignants, pour déterminer leur pratique pédagogique, et aussi des observations en classe, pour savoir en particulier comment évoluer les interactions entre les enseignants et les élèves.
À seulement 12 élèves, donc pour ce nouveau dispositif que vous connaissez, Françoise Popineau, vous êtes enseignante, vous êtes co-secrétaire générale et porte-parole du SNU-IPP-FSU, bonjour.
Bonjour.
C'est le principal syndicat du premier degré. Alors on sait qu'avant, il y avait un autre dispositif, plus de maîtres que de classes. On est toujours sur cette idée de plus d'adultes pour un certain nombre d'élèves. Ça reste une revendication de votre syndicat?
Absolument, ça reste une revendication. C'est un autre dispositif qui permet de travailler davantage avec les élèves qui peinent aussi. Malheureusement, ce dispositif ne pourra pas être évalué et ça, c'est bien regrettable parce qu'il était prometteur.
Bon, vous nous direz tout à l'heure ce que vous pensez du CP et du CE1 à 12 élèves. Alors, il concerne l'éducation prioritaire, un sujet que vous connaissez bien. Marc Bablé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional retraité, ancien chef du bureau de l'éducation prioritaire à la Direction générale de l'enseignement scolaire. En ce moment, vous êtes blogueur sur Mediapart, où on peut lire eh bien, votre opinion sur l'actualité éducative. Et vous vous êtes exprimé sur ce CP et CE1 à 12, cette mesure donc dont on nous a communiqué les premiers résultats. Alors c'était d'abord une communication avant la communication scientifique qui vient juste après. Ce qu'on nous a dit du côté du ministère, c'est que l'évaluation de l'impact du dédoublement sur les compétences des élèves indiquait que l'effet est de 8% d'écart type en français et de 13% en mathématiques en faveur des élèves du réseau d'éducation prioritaire plus, donc les plus prioritaires des classes de l'éducation prioritaire par rapport à un groupe témoin. Comment jugez-vous ces résultats? On va commencer avec vous, Françoise Popineau.
Alors, c'est très difficile de juger ces résultats parce qu'effectivement, ils n'ont pas été livrés de manière suffisamment limpide pour que tout le monde puisse s'en emparer. Donc, c'est compliqué de juger de ces résultats. C'est regrettable parce que effectivement, il aurait été intéressant de voir si l'effet d'abaissement à 12, parce que, je le rappelle, nous n'en demandions pas tant. Hein. Nous sommes sur la base de 25 pour les écoles dites ordinaires et 20, au maximum évidemment, pour l'éducation prioritaire ou les classes à multiniveaux. Donc, il aurait été intéressant de savoir si vraiment l'abaissement à 12 a vraiment un effet bien supérieur à un abaissement de 5 élèves, par exemple, en moyenne sur une classe. C'est ça qui aurait été intéressant de connaître. Pour l'instant, nous n'avons pas les éléments scientifiques qui nous permettent de pouvoir vraiment lire ces résultats.
Parce que, évidemment, ces classes à 12 aspirent, d'une certaine manière, beaucoup de postes, très logiquement, hein, d'enseignants. Il y a peut-être aussi ça dans votre réponse, Françoise Popineau. On va vraiment faire un tour de table. Laurent Lima, vous, du côté des interactions en classe, et puisque vous êtes partie prenante, qu'avez-vous observé comme résultat intéressant?
Alors, ces résultats ne sont pas encore publiés, mais il se trouve qu'on a commencé à les traiter. Je voudrais quand même rappeler que le temps de la recherche, ce n'est pas le même que le temps journalistique, politique, social.
Politique aussi.
Et qu'on a souvent des communications politiques qui se base sur des pré-résultats. Alors c'est un peu le cas ici, bon, parce que les résultats ne sont pas encore publiés. Il se trouve que quand même, ces résultats s'appuient sur des choses qui vont paraître prochainement. En tout cas, en ce qui concerne les interactions, puisque c'est moi qui les ai traitées, donc je connais bien le sujet, on se rend compte que dans les classes à effectifs réduits, il y a plus d'interactions individuelles de la part des élèves vers les enseignants et de la part des enseignants vers les élèves. Alors, dans deux grands domaines, dans tout ce qui touche le contenu, les contenus scolaires, que ce soit les connaissances ou les façons de faire, et dans tout ce qui touche la discipline, alors là, c'est plutôt les enseignants qui sont à la manœuvre, mais en tout cas, ils le font de manière plus individualisée. Donc je pense que c'est aussi intéressant. Alors, c'est pas des effets massifs, hein, c'est toujours assez réduit, mais il faut penser que c'est des effets que nous on observe sur des dizaines ou des vingtaines de minutes, mais qui ensuite jouent tous les jours, toutes les heures, toutes les semaines, sur des années. Donc évidemment, il y a des effets cumulatifs qui sont extrêmement importants, même si on a une ou deux interactions en plus sur une dizaine de minutes, ben ça veut dire sur une année des milliers d'interactions en plus.
Pour renforcer les apprentissages
individuels de chaque élève et donc avoir des interactions individualisées, adaptées à chaque élève.
Et donc une remédiation en cas de non-compréhension. Enfin, c'est aussi ce que j'entends dans votre réponse. Alors, ces résultats, d'aucuns ont dit qu'ils étaient relativement modestes. 8% d'écart type en français et 13% en mathématiques. Julien Grenet, à la demande de Marc Bablé, on va revenir sur ce qu'est un écart type, puisque vous êtes très très bon en statistique, donc vous allez pouvoir nous expliquer. Et est-ce que c'est très significatif au regard de d'autres expériences, si on compare?
Alors, un écart type, c'est effectivement une notion qui peut paraître un peu obscure, mais ça traduit simplement une mesure de dispersion. Voilà, c'est une mesure de dispersion. Quand on dit un effet de 13 ou 8% dans l'écart type, on est en train de dire, grosso modo, est-ce que la taille des classes fait progresser les élèves, disons, si on classait les élèves, par exemple, de celui qui réussit le mieux à celui qui réussit le moins bien sur un test, est-ce qu'ils remontent dans l'échelle? Pour se représenter ce qu'est 8 à, ce que ça veut dire 8 à 13% d'un écart type, bah, c'est à peu près, disons, rattraper deux places dans une classe de 24. Voilà. C'est un peu ça l'ordre de grandeur. Et si on compare cet effet à ce qu'on peut observer dans les études qui ont été menées sur la taille des classes dans d'autres pays, on est plutôt dans la fourchette basse de ce qui a été mené, de ce qui a été évalué. Néanmoins, l'effet, tel qu'il est mesuré, est très significatif. C'est-à-dire, oui, il y a un effet. Il est un peu plus faible que ce qu'on a observé, par exemple, en Israël, aux États-Unis.
Il y a un programme très connu hein, qui s'appelle le programme STAR, qui est un programme américain. Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle date et quels en ont été les résultats?
Alors, c'est effectivement l'étude de référence sur cette question pour une raison simple. C'est que c'est une expérimentation qui a été menée à grande échelle. Et c'est la seule évaluation qui s'appuie sur un protocole randomisé. C'est-à-dire qu'on a alloué aussi bien les élèves que les enseignants, aléatoirement, à des petites classes et des grandes classes. Donc des classes d'un côté de l'ordre de 22, 23 élèves, et de l'autre des classes de 10, 12 élèves. Alors, un petit peu plus. Mais globalement, on a dédoublé les classes et on a alloué aléatoirement les enseignants et les élèves. Pourquoi on a fait ça? Et pourquoi c'est une étude très importante? C'est parce qu'elle permet de corriger ce qu'on appelle des biais de sélection. Parce qu'une comparaison naïve des performances des élèves dans les petites classes et les grandes classes va conduire à des résultats, en fait, souvent biaisés. Pourquoi? Les grandes classes, elles ne sont pas comparables aux petites classes en général parce qu'elles sont plus souvent dans les centres urbains. Les petites classes sont plutôt en milieu rural. Les enseignants qui exercent dans l'un ou l'autre type de classe ne sont pas les mêmes exactement,
donc le niveau d'expérience. Il faut comparer avec le niveau d'expérience des étudiants, des professeurs.
La composition sociale de la classe, que tout ça soit égalisé pour pouvoir mesurer l'effet, on va dire, pur de la taille de la classe. Et donc cette expérimentation, elle a été menée au milieu des années 80 dans l'État du Tennessee. Elle a concerné un grand nombre d'élèves. Au total, il y a plus de 12 000 élèves qui ont été concernés. Et elle a, comme on a un recul historique assez important, on a pu mesurer les effets non seulement à court terme sur les performances des élèves, leurs résultats aux tests de compétences, mais beaucoup plus tard, jusqu'à l'entrée à l'université, voire sur l'insertion sur le marché du travail. Donc, c'est une expérience assez fascinante qui a donné lieu à énormément d'études. Et qu'est-ce qu'on a observé? Donc, dans les élèves qui ont été alloués dans ces petites classes pour 4 ans, puisque c'était une expérience qui a été menée sur 4 ans, obtenaient des résultats supérieurs de l'ordre de 20 à 30% dans les quartiers. Vous voyez, on est à des niveaux plus élevés que ce qu'on observe en France. Dans un contexte aussi différent. Et c'est ça qu'il faut bien dire. On est dans le contexte d'une expérience, une expérimentation très contrôlée, avec un investissement très important, les acteurs qui sont bien conscients, qui sont dans une expérimentation. Donc tout ça va jouer, évidemment. Là, on est en France dans le cadre d'un dispositif à très grande échelle, dans des conditions qu'on peut appeler écologiques, quoi, avec un nombre considérable de classes concernées. Donc évidemment, ça va jouer dans la comparaison. Donc c'est l'expérimentation, disons, phare. Mais ensuite, un grand nombre d'études ont été menées, confirmant ces résultats avec d'autres méthodes, et notamment des études menées en France par plusieurs chercheurs, dont Thomas Piketty, dont Pascal Bressoux. Mais
c'est une étude de 2006, Thomas Piketty et Mathieu Waldener, qui montraient qu'il y avait un effet de seuil, hein, parce qu'il ne suffit pas d'enlever un ou deux élèves. Il faut vraiment que l'effectif baisse pour enregistrer un bénéfice. Conséquence, ça c'est ce que dit la littérature, si on croise les études, sur le nombre d'élèves par classe. J'ai quand même une autre question. Si ça fonctionne, pourquoi est-ce que ce n'est pas généralisé? C'est quand même la politique d'éducation prioritaire. On a du recul, ça date de 1981, la politique d'éducation prioritaire. Marc Vablé, on ne sait pas finalement si ces résultats sont à la hauteur. Elle est critiquée en France, il y a eu des rapports, je pense à un rapport du CNESCO en particulier, il y a 2 ans ou 3 ans peut-être maintenant. Et pourtant c'était ça au départ, c'est donner plus à ceux qui ont moins, donc réduire la taille des classes.
On va essayer de préciser, si vous le voulez bien, un petit peu ce que c'est que l'éducation prioritaire. À quel besoin, en fait, elle répond? Je crois qu'on peut dire qu'elle répond à 2 besoins principaux. Le premier des besoins, il est bien connu. Vous avez rendu compte des études PISA, des comparaisons internationales.
Donc, études PISA sur le niveau des élèves de 15 ans.
Qui ont montré effectivement que les élèves en France obtenaient, quand ils étaient de milieu populaire, des résultats nettement inférieurs à ce que ce serait dans d'autres pays, c'est-à-dire les écarts de résultats entre les élèves les plus favorisés et les plus défavorisés sont beaucoup plus importants en France. Donc ça, c'est une première chose à laquelle répond l'éducation prioritaire. Mais vous allez me dire, on me dit souvent, mais des élèves défavorisés, il y en a partout, bien sûr. Sauf que on a un deuxième phénomène, qui est le phénomène de non-mixité sociale d'un bon nombre d'écoles et de collèges en France, qui fait qu'effectivement, dans ces écoles et ces collèges où il n'y a pas de mixité sociale, l'éducation prioritaire est une nécessité. Elle est une nécessité pour compenser les écarts de résultats entre les uns et les autres. Alors maintenant, sur la question des effectifs, la question se pose de savoir si il suffit de regarder les effectifs et de bouger les effectifs pour favoriser la réussite scolaire. Certainement, ça y contribue. je ne dirais absolument pas le contraire. Je pense que c'est une mesure qui, évidemment, est intéressante, puisque l'éducation prioritaire a pendant très longtemps baissé le nombre d'élèves par classe et que souvent, on lui a reproché de ne pas le baisser suffisamment. Alors maintenant que ça se fait, c'est assurément une bonne chose. Mais la question, c'est est-ce que ça suffit ? Et de mon point de vue, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, il y a tellement de facteurs de la réussite scolaire qu'il faut prendre en compte. Monsieur Grenet parlait d'écologie. Dans l'écologie, il y a des niches écologiques avec toutes sortes de conditions qui font qu'effectivement, on y arrive ou on n'y arrive pas. Il faut jouer sur tous les facteurs et pas seulement sur un seul des facteurs. Mais je reviendrai là-dessus sans doute tout à l'heure.
Parmi ces facteurs, il y a les enseignants, leur expérience. On y reviendra peut-être. Mais Françoise Popineau, vous, en termes de revendications, puisque vous êtes syndicaliste, vous êtes enseignante dans le premier degré, qu'est-ce que vous attendriez ? La taille des classes, vous disiez, on n'en demandait pas tant. Mais est-ce que, par exemple, ça doit être limité, et c'est bien que ce soit au CP-CE1, parce que c'est l'âge de l'apprentissage de la lecture, ou est-ce que ça devrait être étendu, si on avait tous les moyens nécessaires pour le faire, et jusqu'à quel point ?
Oui, ça doit être étendu. Alors, c'est pourquoi je disais on n'en demandait pas tant, parce que est-ce qu'il faut que ce soit étendu avec des classes à 12 ? La question reste entière. En revanche, on a des effectifs de classe, nous en France, qui sont bien supérieurs aux autres pays, et notamment aux pays dont le système éducatif est efficace et qui réussissent les évaluations, les fameuses évaluations internationales, dont l'évaluation PISA, qui est quand même qui donne des éléments de lecture. On sait que ces pays-là qui réussissent ont quand même des effectifs de classe abaissés. En revanche, en France, on a 44% des classes qui sont à plus de 100 000, c'est-à-dire ça fait plus de 100 000, classes avec plus de 25 élèves, dont 7 000 où il y a plus que 30 élèves. C'est une question de bon sens. On sait qu'on ne peut pas bien travailler aujourd'hui dans une classe avec des effectifs chargés. Vous l'avez rappelé les uns et les autres. C'est vrai que monsieur qui avait fait le tour des écoles pour regarder un petit peu l'efficacité en termes d'interaction, mais on a aussi le climat de classe qui est forcément facilité quand on a des effectifs abaissés. On a l'attention de l'élève qui est beaucoup plus présente quand on a des effectifs plus bas. On le sait, il y a une fatigue général, je dirais, du groupe classe comme de la maîtresse qui est amoindrie quand on a moins d'élèves. Donc là, on sait que nécessairement, ça a un effet sur les apprentissages et ça a un effet aussi sur les inégalités scolaires. On sait que ça joue aussi parce qu'on est au plus près des enfants qui ont des besoins spécifiques. Donc c'est une réponse, ce n'est pas la seule, mais c'en est une. À condition, bien sûr, que, et dans le domaine des CPA12, c'est un petit peu ça l'ambiguïté, à condition que les dotations, c'est-à-dire les postes qui sont nécessaires pour abaisser à 12 soient présents. Parce que là, actuellement, comme les postes ne sont pas en nombre suffisant, on prend sur d'autres classes, on prend sur les plus de mètres, le fameux dispositif là qui est diminué et qui est appelé à disparaître sans doute à la rentrée 2019, et on prend aussi sur les classes maternelles, sur le rural. Donc finalement, on abaisse à certains endroits des effectifs à 12 et on les augmente à d'autres endroits. Donc c'est ça qui pose question.
C'est un des volets de la loi qui va être discuté à partir du 11 février. La maternelle va être rendue obligatoire, l'école obligatoire à partir de 3 ans. Vous vous inquiétez, Françoise Popineau, des effectifs de ces classes ?
L'obligation, c'est un effet d'annonce, puisque vous le savez, la classe maternelle est extrêmement bien fréquentée. Donc on ne va pas...
97,5% des élèves français la fréquentent.
On ne va pas avoir une grosse action sur la scolarisation des enfants de 3 ans. En revanche, c'est les conditions d'apprentissage de ces enfants. Il ne s'agit pas de simplement rappeler ce qui existe déjà. Il faut aussi se dire dans quelles conditions les enfants sont accueillis aujourd'hui dans les classes.
Avec un taux d'encadrement, effectivement, qui est en France...
7 000 classes à plus de 30.
Pour la maternelle, et puis si on compare aux pays voisins, notre taux d'encadrement n'est pas particulièrement bon. Ça, c'est dit par différentes études. Laurent Lima, puisque vous avez étudié les interactions en classe à 12, est-ce qu'il faut être finalement 12 ou est-ce qu'on pourrait être 18? Ce serait pareil. Est-ce que vous avez une idée sur les effets de seuil? Est-ce que 25, ça va? Est-ce que 30, c'est plus tenable? Est-ce que ça s'étudie? Que dit la science?
Il y a eu de nombreux rapports qui ont fait les synthèses des différentes recherches et qui montrent que les effets sont d'autant plus importants qu'il y a effectivement une grosse diminution du nombre d'élèves, que cette diminution elle est importante, en tout cas au moins plus de 5 élèves, qu'elle commence en début de scolarité et qu'elle est ciblée sur des élèves qui sont en grande difficulté scolaire ou sociale. Ce qui est, à mon avis, le cas des choix qui ont été faits jusqu'à présent en France. Forte diminution ciblée sur les REP+, puis les REP.
Élèves, voilà. Comment il a été choisi, ce chiffre de 12?
Alors,
D'ailleurs, on dit que c'est pas, d'après vous, hein, on dit que c'est pas toujours 12, parfois c'est 13, 14, 15.
Alors, dans l'expérimentation qui avait lieu en France précédemment, c'était plutôt 10. Là, c'est 12. Je pense que c'est, en fait, c'est une division par deux du nombre moyen d'élèves dans les classes. Voilà. Donc, ça permettait de dédoubler les classes.
Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Il faut baisser le plus possible. Bah, mais est-ce que, par exemple, une classe à 18, 19, c'est ce que disait Françoise Popineau, ce serait... parce qu'après, on va parler du coup avec Julien Grenet de ces mesures. Est-ce que ça, ce serait déjà satisfaisant?
Alors, passer de 20 élèves en éducation prioritaire à 18... ça ne ferait pas de différence majeure d'un point de vue à l'échelle du système éducatif.
Julien Grenet, il faut parler du coût de ces mesures. Ah oui, Françoise Popineau précise que c'est souvent 25 tout de même. du coût de ces mesures, parce que plus d'enseignants, ça a un coût. Alors, il faut prendre les postes sur d'autres classes, les redistribuer. C'est la question de l'allocation des moyens dans l'éducation nationale. Est-ce que finalement, c'est une mesure qui coûte très cher, ou est-ce que le rapport coût-bénéfice semble intéressant au regard des statistiques?
Alors, c'est une question qui, effectivement, est très importante dans la littérature, parce que finalement, c'est là que porte le débat. Le débat parmi les chercheurs sur ces questions, c'est pas tellement est-ce que la taille des classes joue, parce que ça, c'est assez clairement démontré, c'est plutôt est-ce que c'est un bon coût-avantage par rapport à d'autres dispositifs?
Qui serait, par exemple,
du soutien, des dispositifs de soutien, d'autres formes d'intervention extrascolaire ou des dispositifs de formation des enseignants, des méthodes d'apprentissage de la lecture, par exemple. Enfin, il y a un panel d'interventions possibles. Donc, sur cette question, en fait, faut avoir en tête que, effectivement, une généralisation des dédoublements de classes de CP et de CE1, ça coûterait quand même assez cher. Nous, on l'a évalué à peu près 5 milliards. 7% du budget de l'éducation nationale, c'est pas rien. Et puis, ça poserait des difficultés qu'il ne faut pas non plus négliger. C'est-à-dire que si vous faites, comme ça a été fait en Californie au milieu des années 90, un dédoublement général des classes, bah vous avez une difficulté à recruter des enseignants. C'est-à-dire que vous risquez d'avoir à recruter beaucoup d'enseignants novices, et on sait que l'expérience compte beaucoup dans les apprentissages, et donc vous risquez, disons, de perdre d'un côté ce que vous avez gagné de l'autre. Vous gagnez du côté des tailles réduites, mais bon, en termes de qualité d'enseignement, vous risquez d'avoir une difficulté. Donc le ciblage, il justifie d'abord pour cette raison. Il justifie également parce que, comme l'a rappelé Laurent Lima, il y a beaucoup d'éléments dans la littérature montrant que les effets sont plus forts pour les élèves de milieux défavorisés. Et puis il y a un objectif tout simplement de réduction des inégalités. C'est-à-dire que quand on a des moyens limités, est-ce qu'il ne vaut pas mieux réduire la taille des classes à Clichy-sous-Bois qu'à Neuilly-sur-Seine? Sans doute. Si on veut justement jouer sur les inégalités dont parlait Marc Bablet, eh bien, c'est sans doute, même à budget constant, ce qu'il faudrait faire, augmenter un peu la taille des classes dans certaines écoles plus favorisées pour la diminuer assez drastiquement dans les écoles plus défavorisées. Alors après, quels sont les avantages à mettre en regard de ces coûts? Eh bien là, on a quand même quelques éléments dans la littérature montrant qu'il y a des effets à long terme de cette réduction de la taille des classes sur l'accès aux études supérieures et sur l'insertion professionnelle. C'est évidemment pas la seule dimension, mais il y a une étude notamment assez fascinante en Suède où les chercheurs ont été capables de retrouver les élèves dans les données administratives qui avaient été bénéficiés de classes réduites à l'âge adulte. Et ils ont observé quoi? Que le fait de passer 2 ans en classe réduite, c'est-à-dire en CP-CE1, se traduisait par des salaires supérieurs de 5%. Alors, on peut dire, bon, 5%, c'est pas forcément beaucoup, mais 5% sur l'ensemble de la vie professionnelle, ça fait des sommes assez considérables. Et pour vous donner un ordre de grandeur, un calcul un peu de coin de table, mais qu'on peut essayer de faire, la mesure de dédoublement des CP12 se s'auto-financerait, on pourrait dire, à condition que les élèves qui passent 2 ans, donc dans des classes dédoublées CP-CE1, touchent en moyenne des salaires supérieurs de 1%. Une fois à l'âge adulte. Voilà, c'est le genre d'ordre de grandeur qui ferait que la mesure serait autofinancés.
En regard d'économiste sur l'éducation, encore faut-il que les politiques éducatives soient suivies dans le temps, puisque plus de maîtres que de classes, par exemple, c'est un dispositif précédent qui va s'arrêter. Il y avait déjà une précédente expérimentation de CP à 10 élèves et elle a été arrêtée. Là, les résultats étaient plus contrastés. Marc Bablé et Julien Grenet disaient qu'il y avait des effets qui pouvaient annuler le bénéfice des petites classes, par exemple des enseignants inexpérimentés. C'est pas un peu ce qui s'est passé avec l'éducation prioritaire, où certes il y a évidemment des enseignants chevronnés, mais beaucoup, c'est là où on commence sa carrière généralement. Et est-ce que ça c'est pas le péché originel des réseaux d'éducation prioritaire que d'envoyer là où malgré tout les classes sont réduites, et ce qui est très bien, ce qui est une demande de tous, semble-t-il, des enseignants trop novices?
Alors, la question est un peu plus compliquée que ça, parce qu'en réalité, les choses sont extrêmement diverses sur le territoire. C'est-à-dire, il y a des départements dans lesquels vous avez des enseignants parfaitement expérimentés en éducation prioritaire, parce que beaucoup d'enseignants demandent, par exemple, les départements du sud de la France. Et donc là, vous avez plutôt des enseignants expérimentés de manière générale. Alors que, effectivement,
si
il y a des départements, comme
banlieue,
la Guyane, Mayotte, la Seine-Saint-Denis, par exemple, dans lesquels, effectivement, on a des situations qui sont plus préoccupantes en matière de recrutement des enseignants. Mais la question du recrutement des enseignants, elle dépend de tout à fait autre chose, qui est du statut des enseignants dans la société, de l'image de leur métier et de la considération qu'on apporte à ce métier et du tarif auquel on les paye. C'est-à-dire que effectivement, si on va à des niveaux de salaire pour les enseignants qui sont suffisants, comme on le fait également dans d'autres pays, dans les compas qu'on peut montrer par les comparaisons internationales, on a effectivement des chances de faciliter le recrutement des enseignants. Après, j'aimerais insister quand même sur le fait que dans les facteurs de la réussite scolaire, il y a bien sûr l'expérience des enseignants. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur la formation aussi. Il y a énormément de facteurs dans la réussite scolaire des élèves. Le premier ensemble, moi j'ai l'habitude de dire, il y a trois types de facteurs. Premier ensemble de facteurs, c'est des facteurs non scolaires, c'est-à-dire des facteurs sur lesquels l'école peut pas grand-chose. L'exemple type, c'est effectivement des facteurs comme les groupes sociaux, des groupes sociaux plus en connivence avec l'école que d'autres. Ensuite, il y a le facteur de la mixité sociale, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Ensuite, il y a par exemple l'âge des élèves. Selon que les élèves sont plus jeunes dans l'année ou plus âgés dans l'année, on n'a pas tout à fait les mêmes résultats scolaires. C'est des choses sur lesquelles on peut pas grand-chose à l'école. Après, vous avez des facteurs qui sont scolaires. Et dans les facteurs scolaires, vous avez la question de la qualité des locaux, du matériel de l'école, vous avez comment l'école est organisée, comment les personnels se répartissent les effectifs, comment ils se répartissent les classes. Est-ce qu'on donne justement ces classes de CP aux maîtres les plus expérimentés ou pas? Vous avez effectivement des problèmes de nombre dans les groupes, vous avez le problème de la formation, vous avez le problème de est-ce qu'ils sont débutants ou pas. Tout ça, c'est scolaire, ça joue effectivement sur la réussite scolaire. Mais enfin, vous avez un troisième type de facteur qui est tout aussi important et dont on sait qu'il est même peut-être prééminent, c'est la qualité des pratiques pédagogiques. Et là, ça renvoie à la question de la formation initiale et continue, ça renvoie à la question de l'accompagnement des enseignants.
On va y revenir et pour poser ma question autrement, et je vous demande de me répondre en deux mots, est-ce que finalement on a agi, ce ministère a agi sur la taille des classes de manière assez radicale parce que finalement, politiquement, c'est une mesure à la fois payante et relativement facile à prendre?
Oh bah ça, c'est évidemment, c'est probable qu'il y a cet aspect des choses qui compte, c'est-à-dire qu'effectivement une mesure effectivement sur les CP à 12, c'est plus facile à faire passer qu'une mesure qui consistait par exemple à mettre 5 jours de classe le matin, c'est certain.
Ah oui, ça c'est la fameuse semaine à 9 demi-journées. On sait qu'on est revenu en arrière, beaucoup de changements de rythme scolaire depuis 15 ans en France. Vraiment, on va revenir sur la pédagogie, Laurent Lima, avec vous, puisque c'est ce que vous avez étudié. Donc, vous l'avez dit, plus d'interaction dans des classes plus petites, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer plus d'interaction en formant les enseignants autrement, dans des classes un peu moins petites, puisqu'on dit, voilà, la pédagogie, c'est aussi un levier. Est-ce que, finalement, il faut absolument diminuer drastiquement le nombre d'élèves par classe pour changer les pratiques? Et je poserai la question à François.
Alors, il y a deux volets dans votre question. Le fait de diminuer le nombre de classes, d'élèves par classe, a un effet automatique sur le nombre d'interactions potentielles que chaque élève peut recevoir, puisqu'ils sont moins nombreux. Donc, quoi qu'on forme les enseignants, ça ne variera pas. Par contre, effectivement, certaines pratiques pédagogiques, on vient d'en entendre parler, sont plus favorables aux apprentissages des élèves. Et effectivement, on peut former les enseignants à connaître et, s'ils le souhaitent, adopter ces pratiques. Ça, c'est indépendant de la taille des classes. Il se trouve que dans l'étude en cours, dans la politique en cours, on a aussi regardé est-ce que les pratiques pédagogiques des enseignants se modifiaient. Qu'est-ce qu'ils en disaient et qu'est-ce qu'on observait dans les classes. On se rend compte qu'en fait, elles varient extrêmement peu pour l'instant et que de ce point de vue-là, il y aurait certainement à réfléchir sur une formation à des pratiques pédagogiques adaptées à des classes qui ont une structure différente des classes auxquelles ont été confrontés les enseignants jusqu'à présent.
La question qui se pose à l'école française au regard des résultats, on a parlé de PISA, mais on peut parler d'autres études qui renseignent le niveau des élèves français d'école élémentaire en mathématiques, en français. La catastrophe étant les mathématiques, on se place dernier de l'Union européenne. Françoise Popineau, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté, je ne sais pas où elle se trouve, dites-moi, dans la formation des enseignants, dans les pratiques, à transmettre les savoirs et particulièrement aux élèves de catégorie populaire, puisqu'on sait les écarts sont particulièrement importants chez nous.
Oui, alors il y a plusieurs leviers. Hein. Sans aucun doute, la taille des classes joue sur la pratique de l'enseignant et sur sa façon de bien faire son métier. Et cette sensation qu'il a aussi de bien faire son métier en s'adressant à tous les élèves, en n'en oubliant pas, parce que vous savez, quand on a un grand groupe, celui qui est très discret et très silencieux, on a tendance à l'oublier. Donc ça a une action au moins sur sa réflexion sur son métier. À partir du moment où on met en place la réflexion sur son métier, on est prêt aussi à le faire évoluer. Donc ça peut être un élément intéressant. À condition qu'on y soit accompagné. À condition qu'on y soit accompagné de façon à permettre cette réflexion. Non pas de manière verticale avec quelqu'un qui vous dit d'en haut comment il faudrait faire en bas, mais plutôt avec un croisement avec la recherche. Nous demandons ça régulièrement, ce que les enseignants croisent la recherche, se questionnent sur leur métier, analysent leurs pratiques et les fassent évoluer. C'est une nécessité et c'est une demande de nos collègues. Ils n'ont de cesse de nous dire que il y a des gens aujourd'hui qui ont 15 ans d'ancienneté et qui n'ont pas remis leur métier sur la table, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réinterrogé ce qu'ils faisaient, tant d'un point de vue, comme vous le dites, des connaissances qui évidemment évoluent, mais de la pédagogie elle-même qui aussi évolue, qui se re-questionne. On a une formation initiale au pas de course aujourd'hui, avec des stagiaires qui sont à mi-temps dans la classe sans avoir eu une formation solide et qui le reste du temps sont à l'ESP pour finaliser sur le plan théorique. On voit bien que tout ça, il y a une articulation très difficile. Là encore, on voit que les étudiants là qui sont dans leur Master 2 sont utilisés comme moyen d'enseignement. C'est sûr qu'on voit bien l'aspect financier et l'aspect économique, mais on voit pas l'aspect formation. Or, on a besoin aujourd'hui d'enseignants extrêmement bien formés. Il ne faut pas manquer d'ambition dans ce domaine. On doit avoir des enseignants qui ont au moins 2 années pleines de formation initiale et ensuite une formation continue régulière. C'est anormal que des enseignants ne soient pas reformés régulièrement. Enfin, c'est vrai que ça, c'est un manque. Et effectivement, ça donne des enseignants qui se questionnent, qui se demandent, qui vont chercher tout seuls un petit peu leur formation et qui ont du mal à se remettre, effectivement, sans y être aidés, à se remettre un petit peu en scène. Mais je crois qu'ils se questionnent. Quand ils ont les conditions, ils se questionnent.
Vous écoutez Être et Savoir. Cet après-midi, nous parlons de l'école. Nous parlons des effectifs dans les classes, un levier efficace pour la réussite des élèves, mais peut-être pas suffisant, ne serait-ce que parce qu'on ne peut pas réduire la taille des classes partout. Vous l'avez dit, Françoise Popineau, vous qui êtes syndicaliste, on a besoin d'une formation des enseignants plus conséquente, peut-être plus efficace, d'une formation continue. Ça coûte cher aussi, la formation continue. Julien Grenet, on a un peu comparé les dispositifs de politique scolaire et leurs coûts. Comment penser qu'il coûterait plus cher, que ce serait plus compliqué de mieux former les enseignants et d'agir sur la formation continue que de réduire la taille des classes.
Alors, une des difficultés, c'est que la taille des classes, c'est une technologie assez bien maîtrisée. On sait ce que c'est. C'est-à-dire que ça varie pas trop d'un pays à l'autre, d'un contexte à l'autre. La formation des enseignants, un programme de formation, c'est extrêmement divers. Et en réalité, autant il y a un faisceau, un éventail de recherches assez convergent sur la taille des classes, et c'est un des dispositifs pour lequel il y a quand même un relatif consensus dans la recherche sur les effets, sur les programmes de formation des enseignants, en fait, on a énormément d'études qui trouvent zéro effet, d'autres qui trouvent des effets forts, et souvent, quand on regarde dans le détail, ben oui, c'est que les programmes eux-mêmes sont extrêmement divers, et les programmes qui donnent des résultats positifs sont souvent extrêmement intensifs, extrêmement chers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de miracle. C'est-à-dire que pour 1 euro mis dans la formation, eh bien, on récupérera voilà, ce qu'on a mis. C'est-à-dire que si on a un programme de formation pas cher, peu intensif, à raison d'une journée par mois, il ne faut pas s'attendre à des effets très forts. C'est un peu la même chose pour la taille des classes. Baisser une classe d'un élève par classe, ça ne va pas avoir beaucoup d'effet. Donc, ce qui est important, c'est de comparer un peu les ordres de grandeur et le coût. Et donc, des programmes de formation qui fonctionnent, il y en a. Mais il faut être capable d'identifier dans l'ensemble de ce qui est proposé et d'évaluer surtout ce qui marche. Et ce qui aurait été intéressant, je pense, c'est de coupler l'évaluation de des CP réduits avec l'évaluation complémentaire de la formation. C'est-à-dire avoir des CP réduits sans formation spécifique et puis des CP réduits avec formation, de manière à vraiment mesurer le bénéfice supplémentaire qu'on peut en attendre de cette formation.
Vous l'avez proposé en concevant l'évaluation.
Le problème, c'est que c'est d'un point de vue d'évaluation, c'était compliqué à mettre en œuvre dans le temps réduit qu'il y avait pour lancer cette évaluation. Par ailleurs, d'ailleurs, c'est le cas général hein, dans les pays qui ont mis en place ces mesures. On a rarement, voire jamais, d'évaluation de programmes de formation qui accompagneraient. Donc tous les effets que je décrivais, les 20 à 30% d'un écart type en moyenne dans les études qui existent, sont toujours des mesures de la taille des classes sans formation spécifique. Donc ça veut dire que sans formation spécifique, ça marche. Maintenant, la question qui reste en suspens et qui serait intéressante de creuser, c'est quoi le bénéfice supplémentaire d'accompagner la réduction de la taille des classes d'une formation. Et quelle formation ?
Alors, c'est plus ou moins annoncé par le ministère, hein, tout de même une formation spécifique, mais que ne ferait-on pas avec des moyens illimités ? Marc Bablé, vous vouliez revenir sur cette question de la formation ?
Je voulais réagir sur la question de la formation suite à ce qui a été dit sur deux points. Le premier point, c'est qu'effectivement, pour faire de la formation, il faut des formateurs. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'une des priorités, ce serait sans doute de former des formateurs en s'appuyant sur les relations avec la recherche, en travaillant conjointement dans le cadre des ex-SP, désormais je ne sais plus le nom, mais enfin, ça change de nouveau. Donc, ce qu'il nous faut, c'est effectivement aller sur le fond des questions, si vous voulez, et on a besoin, sans aucun doute, de former les formateurs. Et y compris, je dirais, de former l'encadrement. Parce que si vous voulez un inspecteur...
Quand
comme
vous étiez
comme
à la direction générale des affaires scolaires. Oui. Enfin, pourquoi ça n'a pas été fait avant?
Alors, ça a été fait.
Que cette
ça
question traîne-t-elle depuis longtemps?
Ça a été fait. La formation des formateurs, ça a été fait. Pendant 3 ans, nous n'avons cessé de former des formateurs en lien avec des équipes de recherche. Nous l'avons fait pendant 3 années de la refondation de l'éducation prioritaire. Et je pense que cette formation a permis à des enseignants des terrains de l'éducation prioritaire de développer des compétences nouvelles qui leur ont permis d'accompagner des collègues sur le terrain. Je pense qu'il y a plutôt eu un satisfecit général sur cette façon de travailler. Ça continue en principe encore cette année, cette formation. Je ne sais pas ce qu'il en sera dans les années à venir, mais en tout cas, c'est vivement souhaitable que ça continue et que ça se développe.
Alors, d'autres dispositifs sont prévus. D'un autre côté,
j'aimerais revenir sur la formation des cadres aussi, parce que moi, j'ai été inspecteur de l'éducation nationale du premier degré pendant un certain temps. À l'époque où j'ai été formé, alors je ne dis pas que j'étais bon, hein, c'est pas ça la question, mais à l'époque où j'ai été formé, j'avais eu droit à un an de formation théorique et 1 an de stage pratique dans une circonscription de taille réduite. Aujourd'hui, comment ça se passe pour les inspecteurs? C'est quelques semaines de formation théorique et directement dans une circonscription de plein exercice. Donc, si vous voulez, les inspecteurs eux-mêmes, quand ils arrivent dans la circonscription avec de l'éducation prioritaire, ils peuvent être embarrassés par des tas de questions qui se posent à eux. C'est aussi quelque chose qui est compliqué pour eux. C'est-à-dire qu'en ce moment, nous avons des problématiques de difficultés professionnelles pour différents métiers au sein même de l'éducation prioritaire. Disons que l'éducation prioritaire révèle plus les problèmes du système que le reste du système, si vous voulez.
Et qu'elle n'en résout, si on on observe les résultats obtenus par la France, les élèves français, et à l'école élémentaire et à la fin du collège, début du lycée, à 15 ans, pour être le plus efficace, pour redire, on a parlé du programme STAR qui durait 4 ans, programme de réduction de taille des classes. Combien de temps doit durer un tel dispositif? Est-ce qu'on connaît un idéal type 1, 2, 3, 4 ans? Pour l'instant, c'est 1 ou 2 ans. Alors, qui commence? Laurent Lima.
Je veux bien commencer, puisque l'expérimentation qui avait eu lieu dans les années 2000 avait duré une année, et on avait pu montrer qu'une année, ça avait un effet au long de cette année-là, mais que dès l'année suivante, année pendant laquelle les élèves étaient retournés dans des classes à effectif normal, l'effet disparaissait. Donc on sait déjà qu'une année, ce n'est pas suffisant.
Donc un investissement à conséquence, enfin investissement à retour nul, Julien Grenet.
Alors, il
combien
faut
d'années dans l'idéal?
C'est d'autant plus fort, l'effet d'autant plus fort qu'on intervient dans les premiers niveaux de scolarité. Donc,
quand vous dites les premiers niveaux, vous parlez de la maternelle ou du CP?
Ah bah, par exemple, STAR, ça a commencé en grande section de maternelle. Donc très clairement, la maternelle, c'est aussi un enjeu, puisque c'est tout à fait là qu'on peut agir aussi, les grandes sections, par exemple. Après, il faut aussi savoir ce qu'on ne sait pas dans la recherche. Alors, ce qu'on sait moins, c'est par exemple les effets des tailles réduites au collège ou voire au lycée. Enfin, du moins, les quelques études qu'on a suggèrent que les effets sont quand même beaucoup plus faibles. Donc, globalement...
Donc, longtemps et jeune.
Donc, de façon soutenue, jeune. Donc, typiquement, le format qui avait été adopté dans STAR, de façon expérimentale, paraît assez bon. C'est-à-dire, c'était de la grande section maternelle jusqu'au CE2. Ça paraît intéressant. Et puis évidemment, c'est un coût, donc il faut voir comment on le cible, ce dispositif.
Françoise Popineau.
Oui, alors bien sûr, comme toute expérimentation, il faut laisser le temps aussi pour que les choses s'installent. Je serais ravie qu'on commence effectivement par la grande section, parce que on sait que c'est une classe très importante qui prépare aux apprentissages qui vont suivre, et donc il y a beaucoup de travail à faire sur le langage, et c'est très difficile à 30, évidemment. Par contre, j'interviens pour dire que il faut éviter de prendre à Pierre ce qu'on donne à Paul, c'est-à-dire que l'expérimentation, elle ne doit pas se faire sur le dos des autres élèves. Nous, on est vraiment pour un abaissement dans toutes les classes, c'est vraiment indispensable, sans doute beaucoup plus chez les jeunes enfants et beaucoup plus chez les enfants qui ont des fragilités, mais il faut envisager cela partout, parce que c'est très difficile de faire classe avec des groupes classes qui sont trop importants. Et on ne peut pas fabriquer cette expérimentation sans donner en face le nombre de postes qui convient. Sinon, on prend aux uns et aux autres, on prend notamment à la maternelle, notamment au rural, et ça, c'est pas une bonne chose.
Est-ce qu'un sureffectif conséquent à un effectif très faible, Laurent Lima, pourrait être préjudiciable aux apports enregistrés par les élèves en termes de niveau finalement? Est-ce que c'est calculé?
C'est une bonne question. C'est un petit peu ce qu'avait proposé Thomas Piketty dans son étude
de 2006, de
répartir les élèves, j'allais dire les élèves en plus, dans les autres classes, ce qui fait assez peu en fait d'élèves, puisque lorsqu'on s'adresse à l'enseignement prioritaire, ce n'est qu'une petite partie de l'ensemble des élèves. Et que donc si on enlève beaucoup d'élèves dans les classes dans l'éducation prioritaire, on en a... petit nombre à répartir dans les autres classes. Alors, donc, c'est une étude économique, c'est assez théorique quand même. Mais il se trouve que ça provoque assez peu d'effets, parce qu'on peut répartir quelques élèves dans des classes qui en général sont aussi des classes dans lesquelles on a des élèves plus favorisés, qui ont moins de difficultés d'apprentissage. Voilà, donc ma réponse elle est celle-ci. Logiquement, si on cible les choses... sur les élèves qui en ont le plus besoin, ceux qui en ont le moins besoin sont moins sensibles à la taille des classes.
Oui, justement, pour donner une illustration de ces effets, c'est-à-dire de réduction de taille des classes à budget constant, parce que c'est aussi possible, dans l'évaluation qu'avaient menée Thomas Piketty et Mathieu Valdener, pour faire passer la taille des classes, alors à l'époque c'était les ZEP, de 22 à 18, donc moins 4 élèves, il suffisait d'augmenter d'un élève par classe, les classes hors ZEP. Donc c'était pour donner une idée qu'on peut effectivement diminuer assez massivement la taille des classes dans l'éducation prioritaire à budget constant en augmentant un peu la taille des classes dans d'autres, dans hors éducation prioritaire. Alors évidemment, en France, la limite de ça, c'est que, comme vous l'avez très bien rappelé précédemment, la France se caractérise par un relatif sous-investissement dans l'école, dans le premier degré. Quand on compare la dépense par élève...
Maternelle plus élémentaire.
Quand on compare la dépense par élève dans les pays de l'OCDE, en moyenne, la dépense par élève, tout niveau compris, de la France, c'est la moyenne de l'OCDE. Maintenant, en fait, la France dépense relativement plus dans le second degré et l'enseignement supérieur, mais surtout dans le second degré, donc collège, lycée, par rapport au premier degré, donc les écoles élémentaires, et puis le pré-élémentaire, la maternelle, où là, on a quand même un retard assez important. Or, la recherche quand même suggère que c'est là qu'on peut agir sur les inégalités de long terme. C'est dans la petite enfance. C'est les interventions précoces qui donnent les meilleurs résultats. Donc, effectivement, là, mettre le paquet sur l'école primaire et la maternelle, ça, c'est quand même quelque chose qui est recommandé.
Donc, la maternelle... à 12, à 15, à voir comme future réforme, enfin, si les moyens de l'éducation nationale le permettent, Françoise Popineau, dans l'actualité. Donc, on a parlé de la maternelle obligatoire. Et aussi, cette annonce, voilà, ce serait dans le texte de loi qui va être examiné le 11 février à l'Assemblée, des établissements publics des savoirs fondamentaux qui regrouperaient des écoles élémentaires et des collèges. C'est une... nouveauté assez étonnante, hein, un amendement qui a été porté par des députés à l'REM et qui a été ajouté à la loi. Qu'en pensez-vous ?
Je pense que c'est typiquement le genre d'amendement qui est pris sous l'angle des moyens, des structures et non pas sous l'angle pédagogique. Nous avons une vraie difficulté aujourd'hui avec les directeurs d'école. Nous savons que la direction d'école, c'est quelque chose de très complexe, très chronophage en matière administrative. Et ce que demandent les directeurs et les directrices, c'est d'être allégés de ces tâches pour pouvoir se concentrer sur l'animation des équipes et coordonner les projets. C'est ce qui fait toute une vie de l'école. En même temps, il n'est pas souhaitable du tout d'enlever une quelconque proximité. Il faut que le lien avec les familles soit vraiment, il faut que la personne soit présente, qu'il y ait ce lien établi, il faut que tout le monde s'y retrouve. Là, on a le sentiment qu'on fabrique quelque chose, on s'invente des problèmes nouveaux. C'est dommage parce qu'on en a déjà pas mal. Et donc, ce qui serait intéressant, c'est effectivement de se pencher sur la question de la direction d'école et d'apporter une aide au fonctionnement de l'école avec quelqu'un qui soit dans l'école. On imagine assez mal si on se dit que le collège je peux prendre en charge un certain nombre de choses. On imagine assez mal le CPE du collège recevoir l'appel pour dire que le petit Antoine n'ira pas à la garderie.
Julien Grenet, on sait quelque chose dans les statistiques des structures qui conviennent le plus, même en termes de nombre d'élèves, parce qu'il y a le nombre d'élèves par classe, mais il y a le nombre d'élèves par établissement, par exemple. Petits, gros établissements, on a beaucoup défendu les écoles rurales en disant que voilà, c'était des écoles à taille humaine. Est-ce qu'il y a des effets de seuil donc au niveau hein, vraiment de toute une école, tout
très
un collège?
Très sincèrement, il n'y a pas énormément d'éléments là-dessus. Et puis, à trop se focaliser sur les effectifs, on en oublie simplement la composition des effectifs. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est pas tellement dans une école, la taille de l'école. Il y a les petites écoles, les grandes écoles. Bon. Ce qui compte, c'est est-ce que ces écoles accueillent un public divers ou pas divers? Et ça, c'est un point, je trouve, qui est complètement un angle mort de cette réforme, de beaucoup d'autres récemment. C'est l'absence de prise en compte, simplement, de cette dimension élémentaire qui est que, comment on met ensemble les enfants à l'école, quoi.
La mixité sociale, pour dire le mot.
Sur un sujet qui m'est cher, je travaille beaucoup dessus. Et c'est vrai que là, on a finalement pas tellement d'éléments dans les textes récents là-dessus. Alors, il y a une politique qui va porter sur les inégalités, c'est cette réduction des CP en éducation prioritaire. Donc, très clairement, il y a une portée redistributive. Mais alors,
Le dire autrement, Julien Grenet, pour vous, comme levier pour plus d'égalité dans l'école et pour la réussite des élèves, la mixité sociale serait aussi plus importante que la réduction des effectifs?
Oui, puis à la lumière des comparaisons internationales, c'est tellement frappant. La France, c'est le pays du déterminisme social à l'école. Quand on regarde la corrélation entre l'origine sociale et la réussite à 15 ans dans ces fameux tests PISA, on se classe deuxième sur 70. On est les champions du monde des inégalités et du déterminisme social. Et par ailleurs, quand on regarde la ségrégation, c'est-à-dire la composition des établissements, on est aussi parmi les champions du monde. Parmi les pays de l'OCDE, je crois qu'il n'y a que la Hongrie qui se situe devant nous. Bon, donc quand on est dans cette situation, évidemment, on ne peut pas s'interdire de réfléchir aux leviers pour mélanger un peu davantage les élèves et notamment réfléchir aux règles qui gouvernent l'affectation des élèves en fonction de leur lieu, de leur domicile aux établissements et notamment au collège.
Sujet sur lequel vous travaillez, vous l'avez dit, on mettra en lien le podcast de l'émission que nous avons faite ensemble, ça date un peu sur ce sujet, et puis toutes nos émissions sur la mixité sociale, un sujet évidemment très important de politique éducative et d'égalité. Voilà, c'est le podcast d'être et savoir, vous pouvez vous abonner. Merci, merci beaucoup à tous les quatre. Dans un instant, la leçon de choses de Sophie Bobert. Stand on the World de Kids, vous vous souvenez peut-être de cette chanson dans le film Police de Mai Wen, une étape marquante de la carrière d'Emmanuelle Berco, qui est aussi réalisatrice. Elle répond cette semaine aux questions de Sophie Bobert pour la leçon de choses. Emmanuelle Berco a grandi à Paris dans un immeuble un peu spécial et c'est peut-être là qu'est née sa vocation, enfin une de ses vocations.
J'habitais au Grand Pavois, qui était un des premiers grands immeubles parisiens, porte de Versailles, qui avait 16 étages. C'était un des premiers vraiment immeubles à beaucoup d'étages et j'habitais au 16e étage. Et donc ça, c'était déjà assez merveilleux parce que c'est un immeuble qui ressemblait à un paquebot et qu'on avait évidemment du balcon une vue imprenable sur Paris et sa banlieue.
Il y a un cinéma qui s'appelle Le Grand Pavois aussi.
Donc, voilà, c'est le truc un peu décisif, c'est qu'il y avait un cinéma dans l'immeuble, et ça, c'est extraordinaire, qu'il y avait deux salles. Vers 8 ans, je suis devenue très copine avec le directeur du cinéma, et donc je rentrais autant que je voulais voir les films qui passaient sans payer, et je pouvais les revoir plusieurs fois.
Vous avez déclaré dans Libération, je vous cite, hein, « Mon enfance a été marquée par un contraste un peu trop fort entre un grand-père qui me déposait le matin avec chauffeur à l'école et ma mère qui venait me chercher pieds nus en jupe indienne. J'avais honte tout le temps. » Mais
ça, c'est vrai. C'est vrai que j'avais honte tout le temps, mais en fait, j'ai un contraste un peu trop fort. Et finalement, aujourd'hui, je pense que c'est quand même une grande chance, même si du coup, je me sens un peu bicéphale, un peu hybride. Mais je trouve que voilà, la diversité, quelle qu'elle soit, dans justement la jeunesse de quelqu'un, c'est une grande richesse. Et finalement, je pense que ça m'a beaucoup apporté d'être issue de ces deux milieux si contrastés.
Mais à quel âge, hein, est-ce que vous avez commencé à avoir envie de vous approcher du cinéma, du théâtre,
hein? Alors moi, tout est parti de la danse quand même, parce que je voulais être danseuse. Je faisais de la danse vraiment à un rythme quotidien, et puisque mes parents m'ont obligée à aller jusqu'au bac, et alors que je voulais faire de la danse dès 15 ans professionnellement. Bon, moi j'ai passé mon bac, et puis j'ai commencé à faire des formations professionnelles en danse. Donc moi, c'était de la scène, ça c'est sûr, depuis très longtemps. Mais c'est vrai qu'entre genre 11 et 16 ans, j'ai voulu faire, mais à peu près j'avais une liste de métiers que je voulais faire. Alors j'étais pas quelqu'un qui savait pas ce qu'elle voulait faire, j'étais quelqu'un qui voulait faire trop de choses. J'avais ma liste de métiers qui était énorme, au premier rang de laquelle il y avait effectivement, je voulais être chirurgien, parce que mon père est chirurgien, je l'ai beaucoup accompagné en salle d'opération et je suis vraiment passionnée. Je trouve que c'est peut-être le plus beau métier du monde, un des plus beaux métiers du monde. Et j'avais envie de faire ça. Et oui, j'avais pas envie de faire sa spécialité à lui, qui était le cœur, mais moi, de réparer les accidentés, quoi. Pour toute raison, je ne sais. Voilà, j'avais envie de réparer les gens qui étaient en mille morceaux. Et puis, reporter de guerre, pour dénoncer tous les crimes, toutes les maltraitances, toute la sauvagerie du monde. Et puis, en fait, moi, j'ai toujours été très, très habitée par les injustices, quelles qu'elles soient. Et je trouve que j'avais envie de faire des métiers, en fait, qui pouvaient témoigner de ces injustices ou les réparer. Parce que quand on a un accident de voiture et qu'on est défiguré, c'est une injustice par rapport à son voisin. Et voilà, c'est cette idée de réparer les injustices, qu'elles soient sociales, accidentelles ou...
Il y a un épisode, je crois, fondateur pour vous, Emmanuel Berco, qui s'est produit autour de vos 8 ans. C'était en Bretagne, je crois, et vous avez suivi votre oncle, éducateur, dans un camp de vacances pour jeunes délinquants, et ça a un peu tout changé.
Ça a tout changé. Sur le moment, c'est un des grands souvenirs de mon enfance, parce que j'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance. Celui-là, j'en ai un souvenir très précis de ce camp avec des jeunes délinquants sur une plage qui dormaient dans des tentes, etc., où j'ai vu pour la première fois de près des gens qui étaient d'un autre milieu que le mien, qui étaient évidemment moins gâtés par la vie que moi, moins aimés, moins protégés. Et ces enfants m'ont énormément marqué. Il y avait un gamin qui avait tué ses parents dans ce groupe de jeunes enfants qui avaient mon âge ou un peu plus, quoi, entre 8 et 13 ans. Et j'ai été complètement bouleversée, en fait, de découvrir, je crois, à travers ça, que tous les enfants ne grandissaient pas comme moi. J'avais la chance de grandir, et ça a été un choc dans mon enfance. Et j'en ai fait, mais alors 30 ans, 35 ans plus tard, un film. Mais je suis persuadée que ce film est né de ce souvenir.
Oui, le film La tête haute.
Oui, hein. J'étais inspirée par l'adolescence, par cet âge-là. Et je pense que j'ai trouvé la réponse à force, finalement, qu'on me pose la question. C'est que moi, j'ai pas eu d'adolescence pour mille raisons. Je n'ai pas vécu ce moment-là. Et le fait de faire des films et de fouiller ce moment vraiment très unique de la vie, où on se construit, où on se découvre, où on ose tout parfois. Ça, c'est à travers le cinéma que j'ai pu explorer quelque chose que je n'avais pas vécu moi-même.
Vous étiez une ado très sérieuse alors.
J'étais pas sérieuse, mais j'étais très très jeune avec un homme beaucoup plus âgé. J'évoluais dans un monde d'adultes. Je n'avais pas d'amis adolescents. J'étais amie avec des adultes.
Ah oui, donc vous vous êtes plongée dans l'adolescence après coup.
Complètement. Je pense que je me suis vengée. J'ai vécu à travers mes films une adolescence que la vie ne m'a pas offerte finalement.
Et Emmanuel Berco est actuellement à l'affiche de Face à Face d'Ingmar Bergman, mise en scène par Léonard Maton jusqu'au 24 février au théâtre de l'Atelier. Vous retrouvez toutes les leçons de choses de la camarade Sophie Bobert et tous nos anciens numéros en podcast. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et nous écrire, vous le faites déjà, et je vous en remercie. La semaine prochaine, on quitte un peu l'école, nous parlerons de musique classique et de son accès pour le jeune public. Merci à l'équipe d'Être et Savoir, Somanina à la réalisation, Avril Ventura qui collabore à la préparation de cette émission. Merci également à Emmanuel Morse-Duncan à la prise de son. Bonne soirée à toutes et à tous sur France Culture.